L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
Quand on met un cochon sur même pas un mètre carré, dans des bâtiments qui font 700-800 jusqu'à 1000 mètres carrés, il y a une telle intensification d'animaux et que, évidemment, ça produit des pollutions. Nous, on travaille avec 150-180 cochons sur 10 hectares de terre. Dominique Soulier, éleveur cochon plein air à La Boissière, dans la plaine de La Boissière, depuis plus de 15 ans. Donc voilà, retraite un peu précipitée parce que j'avais pas envie de travailler plus et j'avais pas envie qu'on me dicte ma façon de vivre et ce que j'avais à faire. Donc aujourd'hui, on est toujours sur du cochon, là, à La Boissière, sur 10 hectares de terre. On est en GAEC à 3. Enfin, ils sont en GAEC à 3, puisque moi, je suis à la retraite. Maintenant, je suis devenu salarié agricole, on avance. Et on fait sur la ferme, donc on a 150 à 180 cochons sur l'élevage en permanence. Nous, on assure quasiment tout au niveau de nos animaux. C'est-à-dire qu'on fait naître tous nos porcelets de façon naturelle. Donc pas d'insémination, pas de piqûres d'hormones, ainsi de suite. On ne transforme sur la ferme que les animaux qui sont nés sur la ferme. En moyenne, entre 2 et 3 cochons semaine en fonction de l'hiver et de l'été. Et on a un atelier de transformation sur lequel on assure toute la transformation et on fait tous nos produits, du sec, du frais, du cuit, ainsi de suite. Et on fait tout, évidemment, en vente directe sur 2 boutiques de paysans.
Qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'élevage de cochons ?
Dans une autre vie, j'étais viticulteur. Donc il y a 15 ans de ça, j'étais encore viticulteur. J'étais viticulteur, j'étais porte-parole de la Confédération Paysanne de l'Hérault. Le fait d'être syndicaliste, ça m'a fait voir beaucoup de choses, beaucoup de monde, être au courant de tout ce qui se passait. Et j'ai suivi, en tant que viticulteur aussi, les multiples crises de la viticulture. N'est-ce pas? Parce que, comme j'ai dit l'autre fois, c'est pas la viticulture qui est en crise, c'est la viticulture qui est une crise. Depuis des années. Je suis viticulteur, fils de viticulteur, petit-fils de viticulteur, arrière-petit-fils de viticulteur. Donc, je connais le milieu et les difficultés qu'on a eues. Et qui est encore. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec une distillation, surproduction. Et on est toujours depuis 30, 40, 50 ans, on est toujours dans les mêmes mots. Avec après une grosse prise de conscience au niveau agroécologie avant qu'ils s'en parlent, ainsi de suite. Ça devenait pour moi de plus en plus compliqué d'aller traiter les vignes, de mettre des saloperies. Enfin voilà. C'était pas la façon dont j'évoluais et dont j'avais envie de travailler. Et puis après, un jour, je commençais à être au bout du rouleau, physiquement, intellectuellement et économiquement. Grosse bouffée d'oxygène, prime d'arrachage. Prime d'arrachage qui arrive, possibilité de casser tout l'outil, tout l'atelier Viti, en échange de sommes conséquentes. Ben, j'ai dit, là, il faut choisir, il faut y aller. Et en fait, j'ai arraché 20 hectares de vignes. Et je me suis dit, je vais commencer un petit peu à réfléchir. Je me suis dit, bon, là, il faut trouver un atelier sur lequel on a envie de travailler, sur lequel on maîtrise tout, sur lequel on fait de la vente directe. Et on n'a plus personne, plus d'intermédiaires, plus de gens qui arrivent et qui nous disent, un coup, il y a trop d'alcool, un coup, il n'y en a pas assez. Ou dans le cochon, un coup, il y a du gras, il y en a trop, il n'y en a pas assez. Non, on fait tout en vente directe, on travaille direct avec les clients. Et on fait le produit qu'on veut, on garde la maîtrise de notre produit, la maîtrise de notre production et la maîtrise de nos prix si on arrive à faire du produit de qualité. Et on est parti comme ça et on a appris à marcher en courant.
Alors le porc a mauvaise réputation quand même, hein, quand on regarde un petit peu en Bretagne, qui est la région où on élève le plus de porc, c'est la catastrophe en termes de purin, en termes de pollution, et ces fameuses marées vertes, ces algues, etc. Ça vous a pas fait peur de vous attaquer à ce type d'élevage?
Non, en fait, c'est pas le cochon qui produit tout ça. C'est la façon dont on l'élève et le nombre d'animaux qu'on met, l'intensification de l'élevage qui sont tout ce qui vient d'être décrit là, ce sont tous les dérives de l'intensification de l'élevage. Nous, on travaille avec 150-180 cochons sur 10 hectares de terre, hein, qui sont cultivés, ce qui fait qu'en fait, il y a de quoi largement digérer toutes les déjections des animaux. Et puis après, on est sur des croissances lentes, donc on n'a pas les mêmes types de consommation, les mêmes types de déjections. Ça a strictement rien à voir.
La promiscuité, ça donne aussi des maladies, c'est un peu comme chez les hommes, quoi.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on a choisi un travail de cochon avec de la place, du cochon en plein air, du cochon qui naît ici, sur des races qu'on a rustifiées au fur et à mesure, puisqu'on travaille sur une sélection de races, enfin de souches. Je parle pas de race, je parle de souches au fur et à mesure qu'on avance. Et ça nous permet d'avoir des animaux qui soient adaptés au lieu où ils vivent. Hein.
Qu'est-ce que vous appelez souche, en fait? C'est les races, les espèces de cochons? Qu'est-ce que vous élevez, en fait, comme type de cochon?
Moi, je travaille sur des souches, j'appellerais ça la croisée des chemins. C'est en fonction de ce qu'on trouve, puisque toutes nos femelles viennent d'ici, et après on change que les mâles. Pour les problèmes de consanguinité, donc dans les mâles, on prend ce qu'on trouve chez un éleveur, chez un autre, ainsi de suite. Ce qui nous permet d'avoir un énorme brassage génétique. En fait, on fait totalement le contraire de ce qu'il faut faire. On a un travail permanent de désélection. Donc, il faut un cochon industriel, il faut qu'il fasse tant de kilos à 6 mois. Il faut que ce soit des clones pour pouvoir passer tous à l'abattoir avec les mêmes réglages de machine. Il faut que tout soit pareil, tout au même endroit. Il ne faut pas qu'il y ait de poils, il faut qu'il soit rose parce que ça part mieux à l'épileuse qu'un cochon noir. Voilà. Et nous, on travaille sur la plus grosse diversité génétique qu'on puisse trouver. Moi, je suis content quand j'ai pas deux cochons dans la portée qui se ressemblent. Donc, je me dis, là, il y a du bon parce que là, on a la diversité génétique, là, on a la différence de couleur, différence de morphologie. Et c'est avec ça qu'on fait les animaux qui arrivent à tenir debout.
Et qui ont du bon goût aussi, j'imagine.
Après, le goût, c'est autre chose. Le goût, c'est l'alimentation et c'est le temps d'élevage.
Alors justement, en termes d'alimentation, quelle différence entre ce qu'on leur donne à manger en Bretagne et ce qu'on leur donne à manger à la Boissière?
Alors, nous, on est à un quart d'heure d'un train de Montpellier. Donc Montpellier, grande métropole, grosse production alimentaire, donc déchets alimentaires. Et on travaille énormément sur de la récupération de produits alimentaires, mais stables. Et en fait, bon, sur Montpellier, on travaille avec une brasserie artisanale, récupère la drèche de bière. On récupère du pain sur une usine, on travaille avec le mine de Montpellier sur des fruits et légumes. On travaille avec une association aussi qui récupère du pain, qui le vend, le pain de l'espoir, donc on leur prend un petit peu de pain. Après autour, là moi j'ai un copain qui a des chèvres, je vais chercher du petit lait. Et après c'est Georges d'Or qu'on va récupérer du germe d'haricot mango, on va récupérer des brisures d'oreillettes. Et après, on achète de l'orge. Avec tout ça, on essaye de faire une ration qui tienne la route, quoi. Alors bon, les nutritionnistes professionnels, je dirais, du cochon se gratteraient un petit peu la tête. Mais c'est avec ça qu'on arrive à alimenter nos cochons. Donc en fait, pas mal de produits qui partiraient en déchetterie ou au rebut. Nous, avec ça, les animaux, ils s'en régalent. Et essayer de faire en fait ce qu'a toujours été le cochon à la ferme. Le cochon a toujours été la poubelle de la ferme.
Il faut quand même finir par les tuer.
Ah ben oui, là on n'a pas encore trouvé une solution pour faire.
Il n'y a pas là aussi de problème de contraintes, de normes, d'abattoirs. Là on entend parler chez certains des difficultés qu'ils ont soit à aller faire abattre leurs bêtes ailleurs, soit à aller les abattre chez eux. Et vous, comment vous faites hein?
Mais nous, on a la chance d'avoir l'abattoir de Pézenas qui est à demi-heure de la maison. Donc c'est quand même une grande chance d'avoir ça. Bon, on s'est battu pour le sauver. Mais la problématique, c'est que les abattoirs ferment derrière l'autre. Donc on impose des normes, mais comme d'habitude, on ne donne pas les moyens de pouvoir les appliquer. Mais on ne cherche pas à maintenir l'abattoir de proximité. Et la seule façon de maintenir des paysans sur le terrain en vente directe, c'est le maintien des abattoirs de proximité. Il y a des départements qui n'ont plus d'abattoirs. Je crois que c'est le Var, il n'y a plus d'abattoirs. Sur le Gard, il y a l'Est qui a rouvert, mais qui est à moitié fermé. Enfin voilà, il y a une grosse tension au niveau des abattoirs, sachant que les abattoirs sont quand même logiquement un service d'utilité publique. Hein. On oblige les gens à passer par les abattoirs, mais il y en a de moins en moins.
Quand on parle de souffrance animale, certains éleveurs disent que bon, le transport de plus en plus loin de leurs bêtes, de certaines en tout cas, pour aller à l'abattoir qui ne se trouve plus pour certaines dans le département, fait qu'il y a eu une tendance de regroupement de ces éleveurs pour abattre à la ferme directement, avec tous les problèmes que ça peut poser, parce que c'est encore d'autres normes et d'autres contraintes, je suppose, si vous fallait vous abattre vos porcs ici.
Ben, c'est en train de bouger très fortement, puisque là, sur l'Hérault, ils sont quasiment prêts à faire les expérimentations en abattage à la ferme. Hein. En ruminant, en porcin, il y a d'autres petits problèmes à régler, puisque nous, en porcin, on récupère le sang. Voilà, il y a quelques détails à faire, mais l'abattage à la ferme est quelque chose qui est en train de se mettre en place bien comme il faut. Et qui n'est pas du tout concurrent des abattoirs, mais qui permet d'amener un plus aux éleveurs et de faire beaucoup moins de kilomètres, parce que sur certains éleveurs, quand il faut qu'ils fassent 80 ou 100 kilomètres pour amener deux agneaux à l'abattoir vivants, et dans la semaine, aller les rechercher, découper pour les vendre, il y a un moment, économiquement, ça passe plus. Alors que là, on a l'abattoir qui vient à la ferme, et c'est déjà... une économie, et je pense, un gain de temps. Et après, pour les animaux, oui, pour les animaux, quand on fait... Moi, je pense que nous, ils ne le sentent pas trop, parce que les routes sont bonnes, donc on part sur l'autoroute, on file demi-heure, on descend les cochons à l'abattoir, ils n'ont pas l'air trop hagards, trop stressés. Mais c'est sûr que s'ils n'avaient pas le faire, je pense qu'ils ne pleureraient pas.
C'est tout ce qui vous manque pour être complètement autonome?
À peu près, oui.
si j'ai bien compris.
Quel est le cycle en fait de vie, donc de transformation en fait du cochon? Combien de temps vous les gardez et puis au final ils finissent à l'abattoir?
Ben nous les cochons, donc ils naissent à la maison et on les garde minimum un an à l'engraissement. Et au bout d'un an, on a du cochon qui fait 180 kilos vif à peu près. Et là, ça part à l'abattoir. Après, on va récupérer, donc on les amène vifs à l'abattoir. On récupère nos demi-carcasses. On récupère le sang, on récupère les tripes, enfin on récupère tout ce qui est récupérable. Et après, nous, on travaille tout le reste. Enfin, on travaille les carcasses, plus les abats, sur divers produits en fonction de la demande, de la météo et de l'époque. On part de nos demi-carcasses, qu'on découpe, qu'on dénerve, qu'on décoigne, qu'on dégraisse, pour pouvoir faire de la saucisse fraîche, de la saucisse sèche, des côtes, des rôtis, du boudin, des andouillettes, et après de la saucisse sèche, du jambon. Voilà, ça c'est aussi un travail à part entière de pouvoir gérer tous les pâtés, et ainsi de suite. On a un atelier de transformation sur place.
Quel regard vous portez sur ces phénomènes un petit peu végétariens, vegan, etc.?
Non, moi ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait une prise de conscience au niveau des consommateurs, des citoyens, sur ce que sont les paysans. Je ne parle pas des agro-managers, ce que sont les paysans, ce que font les paysans et le travail que font les paysans. Nous, on n'élève pas ici de la protéine à bas prix. Nous, on élève de l'animal qui va nous donner des viandes qui vont donner du plaisir à la consommation. Et on va prendre du plaisir aussi quand les clients vont nous dire « Ou alors toujours, grand manger votre saucisse avec des amis. Ah, on s'est régalé. » Cette relation-là qu'on a. Enfin, chez nous, on ne trouvera jamais de la promo de certains supermarchés mais de la saucisse à 5 euros du kilo. Ça, nous, on ne sait pas faire, on ne veut pas faire. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une baisse de consommation. Si les paysans qui font de la vente directe sont en capacité de communiquer comme il faut et d'expliquer ce qu'ils font, pour eux, il n'y a pas de gros danger. C'est l'industrie qui va falloir qu'ils expliquent un petit peu ce qu'ils font.
Oui, parce que l'élevage industriel, comme l'agriculture industrielle, justement, il y a cette coupure entre ceux qui décident, ceux qui financent, ceux qui produisent, ceux qui vendent, ceux qui transportent et ceux qui mangent. Et si j'ai bien compris, cette relation que vous avez, vous, avec vos propres clients, ça fait partie du métier?
Ah oui, complètement. Complètement, s'il n'y avait pas ça... Enfin, je veux dire, produire pour balancer nos viandes, soit en demi-carcasse, si je ne sais pas qui, soit un sac plastique sous vide dans je ne sais quelle boutique, et on est complètement coupé du produit, non, aucun intérêt. Quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, il faut discuter avec les clients, il faut discuter recettes, il faut discuter... conneries, enfin, on discute de n'importe quoi avec les clients, quoi, mais ça fait partie du truc. Mais on a des vrais contacts. Des vrais contacts, et on peut expliquer. Nous, on a fait, à la fin avril, on a fait de ferme en ferme. On a fait à peu près 800 personnes sur la ferme sur le week-end. Mais ça a été des rencontres super intéressantes. Super intéressantes parce que les gens veulent savoir, ils veulent connaître, ils veulent comprendre. Moi, c'est tout à fait normal. Moi, je suis consommateur en plus d'être producteur. Moi, je ne mange quasiment que des aliments qui viennent des gens que je connais. Et la relation n'est plus la même. Pas au producteur, mais à l'aliment.
Et vous vendez sur quel périmètre vos produits ?
Le plus loin, c'est Clermont-l'Hérault.
Boutique Auchan, c'est vous qui l'avez créé pour oui. justement être dans cette vente directe. Mmh. Donc, vous vendez aussi d'autres produits que vos produits.
Oui.
Et voilà, comment ça a émergé justement comment elle s'est créée ? À quel moment vous vous êtes dit, bon, ça y est, je veux vraiment être dans la vente directe, je veux créer ma boutique, je veux vendre ici. Et puis, comment vous avez choisi les autres groupements de producteurs pour vendre vos produits ?
Ben nous, quand on a démarré ici, on a été même fondateur de la boutique de paysans de l'Odève, donc à travers champs. On a commencé à vendre là. Quelque temps après, on a pu rentrer à la boutique paysan producteur à Clermont-l'Hérault, puisqu'il cherchait quelqu'un de cochon, donc on avait déjà un pied là-dedans, dans ce système de boutique. Après, moi, du fait de mon implication syndicale, je connaissais quand même pas mal de producteurs. Et en fait, on n'avait pas de point de vente ici. Et c'était très compliqué parce qu'on avait quelques clients qui commandaient. Enfin, ça devenait ingérable. Et en fait, on a dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut faire un point de vente. Il faut faire un point de vente là, sur la ferme. Ça paraît normal. Et on était déjà impliqués là-dedans. On a dit, bon, de toute façon, faire un point de vente, c'est pareil. On continue, quoi, on le fait collectif. Et à ce moment-là, on a été obligé d'arrêter parce qu'on ne pouvait pas le faire. On a été obligé d'arrêter la boutique de l'Odève pour ouvrir ici.
Qu'est-ce que vous imaginez, vous, pour justement un avenir meilleur sur le territoire ? Vers quelle décision il faudrait aller ? Vers quelle perspective il faudrait aller ?
Ben, les perspectives, si on prend certaines communes, nous, la commune de la Boissière, on a 80% de terres qui ne sont pas cultivées. Et qui a possibilité de cultiver. Je parle de terres arables. Il y a des centaines d'hectares, voire des milliers d'hectares de bois qui attendent que l'allumette. Et il y a des consommateurs qui cherchent des produits de qualité. On est à 3 pas de la métropole. Donc il y a du lien à faire, il y a des choses à faire. Donc commençons par installer des paysans, commençons par occuper les terres. Et qu'on soit, nous, ici... les ceintures vertes de la métropole avec une production de paysans et de la vente directe ou une plateforme. Enfin voilà, il y a de quoi faire bouger le pays. Mais bon, il y a des années qu'on nous parle de choses et de choses, mais on a l'impression qu'il ne faut pas trop secouer le cocotier parce que là, ça va pas mal, ça gueule un peu, on balance 3 ronds, on achète un peu de paix sociale et ça se tait.
Et est-ce que les paysans, ils viennent, ils ont envie de venir ? Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui... Bon, on voit de plus en plus de jeunes qui ont envie de s'impliquer dans l'agriculture. Est-ce qu'ils sont freinés, justement, pour aller... Parce qu'il y a un manque de soutien ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce niveau-là ?
Si le foncier n'était pas hors de prix, on arriverait à installer des paysans. Moi, ce que j'ai fait ici, il y a plus de 30 ans que j'achetais ces parcelles... Bon, aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, l'intérieur est en GAEC, donc moi, je suis propriétaire des sols et je le loue au GAEC qui l'exploite. Mais aujourd'hui, c'est même un problème qui se pose à moi souvent. Et dans quelques temps, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Parce que là, c'est irreprenable. Avec la valeur actuelle... Alors, je ne dis pas la valeur agricole, hein. Je dis la valeur spéculative, hein. C'est inachetable pour faire de l'agriculture.
Un sondage vient de tomber aujourd'hui. 16% de la population française avoue ne pas manger à sa faim. On en arrive à ce que des gens font la queue au Secours Populaire, au Resto du Cœur, etc.
On recule sur la pauvreté. Enfin, je veux dire, la phrase qui se dit un pays riche est en train de reculer. Enfin, au niveau pauvreté des populations, c'est catastrophique. Enfin, nous, on le voit au niveau des clients, on voit très bien que il y a des moments, ça regarde, ça prend un peu moins. Voilà. Par contre, on n'a jamais eu de réflexion à 10 ans, vous êtes cher. Ceux qui ont moins les moyens que ce qu'ils avaient, ils prennent un peu moins, mais ils ne nous ont jamais dit vous êtes cher. Parce qu'on est au niveau de la qualité là. Mmh. Donc ils reconnaissent ça, donc c'est, pour eux, c'est, ils vont se faire un plaisir. Mais c'est vrai que c'est une problématique qui dépasse l'agriculture. Hein. Oui. Mais comment, comment on arrive à nourrir tous les citoyens de façon digne.
Dominique Soulier, on dit que tout est bon dans le cochon, c'est vrai?
Ben, le maximum, ouais. Le maximum.
C'était Dominique Soulier, un portrait d'agriculteur réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Tous les podcasts sur rphfm.org.